Eh oui, c'est toujours oui ou bien c'est non. Et la question que nous vous posions vendredi pour aujourd'hui était la suivante. Le conflit actuel au Proche-Orient est-il en train de dessiner ou de redessiner un nouvel ordre mondial? Alors Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs?
Alors franchement, ils ont tranché, hein, Didier, aujourd'hui. 83% de oui sur Facebook, 81% de oui sur Insta et 100% de oui sur X. Donc visiblement, ils sont unanimes sur le fait que selon eux, le conflit actuel est en train de dessiner un nouvel ordre mondial. Et on va demander son avis à notre invité, Gérard Vespierre. Bonjour.
Bonjour à vous. Ravi de vous
entendre. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka ce matin. Gérard, vous qui êtes géopolitologue, est-ce qu'ils ont raison de penser que le conflit actuel au Proche-Orient redessine un nouvel ordre mondial?
Alors, géopolitologue, donc je suis un homme mesuré, donc je vais vous dire oui et non. Oui, un nouveau dessin, et je ne suis pas aussi ambitieux que vous, donc je vais dire nouvel ordre régional. Et après, il y aura peut-être une autre dimension, mais dans les temps actuels, et je m'expliquerai sur les deux temps, il y a un ordre régional, c'est-à-dire que le 7 octobre 2023, il y avait une domination absolue de l'Iran et de ses milices au nord, au sud d'Israël. Donc voilà, nous étions dans l'ancien temps. Et le 7 octobre 2024, nous sommes dans le nouveau temps du renversement stratégique au Moyen-Orient. Israël a défait militairement ses deux adversaires de milices iraniennes, donc sous influence iranienne, le Hamas et le Hezbollah, qui sont bien sûr très très diminués dans leur puissance militaire, même si elle n'est pas complètement réduite encore. Et d'autre part, la capacité militaire, je dirais technologique, à base de drones, de missiles de croisière, de missiles balistiques iraniennes, s'est montrée malgré entre 500 et 600 engins lancés vers Israël, inefficace. Donc le bouclier a battu le sabre. Donc voilà, on est maintenant dans une nouvelle disposition, un nouveau dispositif stratégique au Moyen-Orient où Israël a défait ses adversaires voisins et tient complètement en respect la puissance militaire iranienne en attendant ce qui peut se passer dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Si dans le deuxième volet, Israël intervient sur la stabilité du régime iranien par donc des opérations cyber et autres et amène un changement politique en Iran, là nous serons dans la deuxième phase du changement géopolitique de toute la région, car l'Iran est l'ami du Kremlin.
Alors, c'est vrai, on le rappelle depuis un certain temps, y compris avec vous, Gérard Vespierre, il y a un axe entre le Kremlin, la Chine et l'Iran. Mais dans ce que vous venez de dire sur un nouvel ordre régional, je voudrais qu'on essaye de voir quelque chose de positif pour une fois. On entendait justement Benjamin Netanyahou la semaine dernière dire aux Libanais, s'adresser directement aux Libanais et dire que c'était une occasion historique pour eux de se débarrasser des terroristes du Hezbollah, et les opposants iraniens également le disent. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à la faveur de cette guerre, Gérard, on rééquilibre et qu'il y ait moins de terroristes au Moyen-Orient que ce qu'il y en a aujourd'hui?
C'est l'espoir, c'est la perspective, les différentes factions religieuses, politiques libanaises ont, comme vous venez de le dire, une grande responsabilité, de même que la communauté internationale, pour encourager et faire en sorte que un Liban nouveau puisse, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, naître. le poids militaire et donc politique et de la vaste minorité chiite, à peu près 30-40% des Libanais sont musulmans chiites, donc cette milice militaire aux ordres de Téhéran effectivement a bousculé la situation intérieure politique libanaise. Maintenant que le Hezbollah a au moins un genou à terre et le deuxième peut approcher, et là il y aura la possibilité pour les autres courants de pensée libanais, les autres factions politiques et aussi l'international, la communauté internationale, d'aider le Liban à avoir un nouveau président et avoir un nouvel équilibre politique favorable, eh bien, ou qui accompagne la restructuration dont on vient de parler, donc un retour des populations syriennes, palestiniennes dans leur territoire réciproque, et puis aussi une stabilité économique dont le Liban a besoin.
Alors, le Liban a besoin effectivement de stabilité. Pour l'instant, il est complètement gangréné par les forces du Hezbollah. Sur quels alliés, en dehors des États-Unis, Israël pourrait compter pour changer les choses au Moyen-Orient, hein, Gérard Vespierre?
Vous savez, je pense qu'il y a, j'ai parlé de diplomatie pour me concernant et au début de notre entretien, la diplomatie internationale est toujours duale. Il y a toujours deux fers au feu, n'est-ce pas? Et donc, si les autres puissances européennes ne sont pas très, très présentes, elles n'en souhaitent pas moins ardemment la chute du régime iranien. Donc, de ce fait, elles ne peuvent qu'accompagner le dessein que Israël est en train de mettre en œuvre, à savoir un potentiel, soyons prudents, un potentiel changement de régime en Iran. J'ai pu lire un compte-rendu mais qui est public, mais que certainement peu de personnes ont pris connaissance. C'est l'entretien que le président Macron a eu avec le nouveau président iranien à New York il y a quelques semaines. Il lui a dit vraiment des choses très très dures. Libérer immédiatement nos otages, arrêter de déstabiliser la région. Enfin, vraiment, et c'est ce que la France, au fond, exprime et veut. Donc, la France reste aux côtés d'Israël, quelles que soient les impulsions, effectivement, souhaitées d'arriver à ce que tout le monde souhaite, les Israéliens, ô combien aussi, c'est à la paix. Bon. Donc, il y a, au niveau des puissances européennes, une volonté non exprimé publiquement et de façon, je dirais, agressive et sur les médias, d'une chute du régime iranien. On ne peut pas accepter de garder un régime, comme disait Bush, fils, il y a quelques dizaines d'années, un État voyou, n'est-ce pas, qui détient des Américains, des Allemands, des Français, des Suédois, etc., pour faire chanter les États. Ce n'est totalement inacceptable. Il faut un retour au Moyen-Orient, à l'état de droit qui a été complètement foulé aux pieds depuis bientôt 45 ans.
Honnêtement, Gérard Vespierre, dans les derniers discours d'Emmanuel Macron, on n'a pas beaucoup entendu le soutien de la France pour Israël. On a beaucoup entendu le soutien de la France pour le Liban.
Oui, le Liban, parce que bon, il y a des liens historiques privilégiés, culturels, linguistiques, etc., etc. Donc, effectivement, et c'est le pays qui a subi depuis les années 70. Donc là, on est dans le temps long, pratiquement 50 ans de désordre. Donc c'est pas possible. Vous voyez, Israël en 50 ans a eu 50 ans de développement. Bon, là, on a 50 ans de désordre, 50 ans de souffrance. Bon, et je mets entre parenthèses l'horrible explosion du port de Beyrouth. Bon, donc là, il y a vraiment besoin d'un, comme on le disait tous les deux il y a quelques minutes, d'un retour à une situation urgente de stabilité, d'équilibre et de développement pour le Liban.
Pour finir, Gérard Vespierre, est-ce qu'on pourrait imaginer, on parle de plus en plus de cette possibilité d'avoir une force internationale peut-être, et on voit tous les problèmes qu'on a avec la FINUL actuellement. Est-ce qu'on pourrait imaginer une autre forme de police internationale pour garantir tout simplement cette frontière nord entre le Liban et Israël, qui représente finalement assez peu de kilomètres, qui ne devrait pas être si compliqué que cela?
Le problème, ce ne sont pas les kilomètres, le problème, ce n'est pas le nombre d'hommes en uniforme, le problème, c'est la mission qu'il aurait confiée. La mission qu'il aurait confiée, c'est pas de maintenir l'ordre, la mission qu'il aurait confiée, je vais être assez brutal, c'est de compter les points. On fait des rapports, il y a eu des coups de feu, il y a eu des canonnades, etc. etc. Mais la FINUL, il y a pourtant, je crois, pas loin de 10 000 hommes de différentes nations, dont 700 un peu plus de Français. Eh bien, ce n'est pas de sortir les chars et de dire aux autres chars, arrêtez-vous, ou de bombarder les bases de lancement du Hezbollah. Donc, c'est une force de nature militaire, mais qui n'a pas de rôle militaire. Bon, donc qui n'a pas une mission militaire. On a eu un peu ça au Kosovo. Il a fallu un moment que Chirac dise bon, ça suffit. Maintenant, on nous attaque en tant que force internationale. On va répliquer. Bon, donc tant que le mandat donné par l'ONU, et c'est pas dans la nature de l'ONU de dire on va envoyer des forces militaires qui vont avoir un comportement militaire. Ce n'est pas, pour répondre directement à votre question, à mon humble avis, une force militaire internationale issue de l'ONU qui pourra faire quelque chose. Peut-être une force militaire internationale issue d'autres cieux, par exemple des pays arabes, puisque là on est dans l'imaginaire. Pourquoi pas, mais certainement pas dans l'historique et dans la mission philosophique des forces militaires casque bleu de l'ONU.
Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Bonne journée à vous et à bientôt.
Merci, merci Lise. Bonne journée à toute l'équipe. Au revoir.